c'est de se nourrir. Hein, c'est de se nourrir. Ce n'est pas la quantité de pages que l'on peut lire, mais c'est surtout le fruit que la parole de Dieu porte dans nos cœurs qui est important, le résultat que cela produit en nous. Alors, Genèse chapitre 4, on va lire du verset 3 au verset 8 du livre de la Genèse. Genèse chapitre 4, du verset 3 au verset 8. Donc, nous sommes où ? Ben, nous sommes tout au commencement. Adam et Ève ont été ont perdu leur innocence et ils ne pouvaient plus rester dans le paradis, dans le jardin d'Éden, et donc ils ont été refoulés. Et ils ont commencé une nouvelle vie dans de nouvelles conditions. Et ils ont eu des enfants, Caïn et Abel. On a vu cela la dernière fois. On va lire maintenant. Alors, Abel et Caïn ont grandi. On est au verset 3 maintenant. Genèse chapitre 3. Chapitre 4, verset 3. Merci. Donc, au bout de quelque temps, Caïn, qui est né des enfants, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité ? Pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Donc on va s'intéresser, aujourd'hui on avait vu la dernière fois ce qui concernait ces offrandes, pourquoi il y avait une offrande qui avait été agréée, pourquoi il y avait une autre offrande qui n'était pas agréée, et on avait vu que ce n'était pas tellement le problème de l'offrande, c'était le problème de la personne eux-mêmes. Il y avait un qui était agréable à Dieu et son offrande était agréable à Dieu, Abel, et l'autre qui n'était pas agréable à Dieu et son offrande n'était pas agréable à Dieu non plus. Et il n'est pas dit pourquoi à ce moment-là, la parole de Dieu ne nous donne pas de détails, mais en tout cas, ça n'avait pas plu à Caïn qui avait baissé le visage donc, et qui avait s'était renfrogné, s'était refermé sur lui-même, s'était replié, avait râlé, on peut dire les choses comme ça, on les dirait comme ça. Il s'était très irrité, en tout cas, dit la parole, c'est le terme qui est utilisé, avec la tête baissée comme ça. Nous avions vu la dernière fois que aujourd'hui, comment être agréable à Dieu, c'était pour eux, certainement une question d'obéissance par rapport à ce que l'on sait des chapitres d'avant, Genèse chapitre 3, on a vu le problème de l'obéissance et de la désobéissance, et comment être agréable à Dieu aujourd'hui, c'est lui obéir, encore et toujours, et lui obéir, c'est croire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, on avait vu ça, pour être agréable à Dieu et l'offrande qu'on pouvait lui faire, c'était nous-mêmes, on avait lu Romains chapitre 12 verset 1. Alors maintenant on va voir un petit peu la suite de notre passage. Le titre du passage de notre message serait ce matin, s'il fallait en donner un, la domination du péché. La domination du péché, avec ce double sens, soit le péché je le domine, soit il me domine. Et il y a les deux choses qu'on va voir dans notre texte, la domination du péché. Verset 6, donc on était resté sur Caïn qui avait le visage baissé. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité, pourquoi ton visage est-il abattu ? première remarque, donc ici, on voit que Dieu s'adresse à Caïn, même s'il lui est désagréable, même s'il n'est pas agréé par Dieu, ben quand même Dieu s'adresse à lui. Le péché n'empêche pas la communication avec Dieu, mais il empêche la communion avec Dieu. C'est la remarque que je ferai. Communion et communication ne sont pas la même chose, hein. Si on prend l'exemple de nos hommes politiques, par exemple, quand ils sont dans l'Assemblée, ils communiquent beaucoup. On ne peut pas dire qu'ils ne parlent pas et qu'ils ne se parlent pas. Mais est-ce qu'ils sont en communion? Pas forcément. Pas vraiment, du moins ils ne montrent pas. Et à l'opposé, nous avons à Villefranche un ancien bâtiment qui est la chartreuse de Villefranche. Et là, il y avait à l'époque des chartreux. Et les chartreux, ils ne parlaient pas. Ils étaient vraiment des vœux de silence et il n'y avait que pendant de rares occasions où ils avaient la possibilité de parler les uns avec les autres. Ils ne parlaient pas, ils ne communiquaient pas, ils ne cherchaient pas à communiquer, ni entre eux, ni à l'extérieur. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils n'avaient pas de communion entre eux puisqu'ils s'appelaient frères. Donc, la Bible dit que ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Il y a une séparation, il y a un problème de communion, mais il n'y a pas un problème de communication. Dieu peut s'adresser à nous, même si nous sommes loin de lui, il peut quand même nous parler, il peut quand même s'adresser à nous comme il s'était adressé à Caïn. Et on voit qu'il s'était adressé ici à Caïn, on ne dit rien de ce qui se soit adressé à Abel. Ce n'est pas parce que l'on n'a pas l'impression que Dieu nous parle, qui est pour autant on lui est désagréable. Hein. Dieu s'adresse à Caïn au verset 6. Et ensuite, il lui donne un conseil par rapport à son état où il n'est pas agréable à Dieu. Verset 6. Verset 7, pardon. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Alors voilà un texte qui est peut-être bien surprenant, un conseil de Dieu à Caïn qui est bien surprenant. Alors regardons un petit peu plus le vocabulaire ici, parce qu'on est dans une traduction de l'hébreu en français, donc il y a des nuances des fois dans le vocabulaire, et c'est intéressant de bien identifier les mots. Si tu agis bien, alors « agis bien », c'est un mot, un seul mot, dans le texte hébreu, « yatab », et qui on le trouve dans le sens de « bien », de « bon », de « faire du bien », d'être bien, à la fois « être bien » et à la fois « faire du bien », c'est le même mot. Avoir l'insentiment, être heureux, plaire, être approuvé, approuvé, faire avec soin, être satisfait, se réjouir, être joyeux. Donc, on a à travers ce mot la notion de faire du bien, d'être bien soi-même. Il n'y a pas du tout la notion de se forcer ou de faire des efforts, comme on pourrait le dire ici, ou Dieu dirait à Caïn, si tu agis bien, si tu fais, si tu te forces, si tu fais des efforts, etc. C'est pas c'est pas sur ce terrain-là que Dieu veut le conduire. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage, c'est-à-dire tu seras restauré, tu vas te relever, hein, ou je vais te relever. C'est comme ça quand quelqu'un se prosternait devant son Seigneur, eh ben, on se prosterne devant son Seigneur, le visage contre terre, en signe de respect, de soumission. Et le Seigneur qui a son serviteur qui lui est agréable, il lui relève le visage. Ton visage sera relevé, tu seras pardonné, tu seras rétabli dans la communion avec moi. Tu me seras agréable à nouveau. Si tu agis bien, si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Si tu agis mal, littéralement, c'est si tu agis pas bien, c'est-à-dire si tu fais le contraire. Si tu agis pas bien, tu relèveras ton visage, ça j'en ai parlé. Le péché se couche à la porte. Le péché se couche à la porte. Alors le péché, c'est la première apparition du mot péché dans la parole de Dieu. Le voilà qui arrive. Donc c'est un passage qui est important, certainement. Quand on voit la première fois arriver un mot ou une expression qui est capitale, hein. Alors le péché, on le dit, le sens c'est manquer le but, de manquer l'objectif, d'être à côté de la cible, d'être à côté de la plaque, d'avoir faux, d'être dans l'erreur. Mais le sens est beaucoup plus fort que simplement manquer la cible, on le sait. Le péché se couche à ta porte. Le péché se couche à ta porte. Alors, se coucher, c'est le mot qui est utilisé pour les animaux qui se reposent. Vous regardez la parole de Dieu, vous verrez toujours que ce mot, c'est pour les animaux quand ils sont au repos. Voilà, ils sont couchés, les brebis, etc. Un troupeau qui est couché. Le péché se couche à ta porte. Alors, la porte ici, c'est pas la porte. C'est l'entrée, se couche à l'entrée, c'est un mot qui est utilisé tant pour les portes des maisons que pour les tentes par exemple. C'est l'entrée, il se couche à l'entrée. Le péché se couche à l'entrée, il se couche à la porte. Ses désirs se portent vers toi. Ses désirs se portent vers toi. Alors le mot désir, c'est facile de voir ce que c'est parce qu'on l'a déjà trouvé. Genèse chapitre 3. Quand dans les sanctions qui sont été appliquées par rapport à Ève, Dieu lui avait dit tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et c'est les deux mêmes mots qu'on retrouve. Les désirs se portent vers le mari, donc on voit que c'est les désirs, ce mot de désir, on le retrouve dans le Cantique des Cantiques. Là, c'est les désirs de l'homme envers la femme. Là, c'est les désirs ici de la femme envers l'homme. C'est des désirs d'amoureux. Hein. C'est un mot très fort. Et là, on retrouve le même mot. Dieu emploie le même mot. Les désirs du péché se tournent vers toi. Et toi, domines sur lui. Exactement le même mot qui était utilisé. Il dominera sur toi par rapport à ce que avait précisé Dieu dans les relations entre les hommes et les femmes. Comment comprendre ce passage? Comment comprendre ce passage? Je pense qu'il s'agit là de la première image que Dieu donne pour communiquer avec les hommes. La Bible est un livre très riche en style littéraire et des fois on utilise des images pour nous faire comprendre les choses. Et là je pense que c'est une image que Dieu a utilisée pour parler à Caïn et pour nous parler à nous aussi maintenant. Comment on peut savoir si c'est Dieu utilise une image ou si on doit comprendre le texte de façon littérale? Question qu'on peut se poser en lisant la Bible. Mais il faut faire appel à son bon sens. Hein. Et il y a quelque chose qui est intéressant également de voir, c'est les fruits que cela porte. L'objectif de la parole de Dieu est de nous instruire pour que nous changions. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, soit rendu parfait et propre à toute bonne œuvre. A écrit Paul à Timothée, en 2 Timothée 3,16, on lit cela. La parole de Dieu est là pour nous instruire. Et donc, s'il y a un passage, il faut choisir de préférence le sens qui va nous être utile, celui qui va nous instruire, celui qui va nous changer, nous transformer, parce que c'est là l'objectif de Dieu. Il y a dans la mythologie babylonienne une question qui s'appellera un démon, qui s'appelle Rabitsou. Rabitsou, c'était un démon qui était tapi à l'entrée des maisons, qui était couché, qui se trouvait à l'entrée des maisons et qui était prêt à sauter sur les personnes qui passaient là. Et les Babyloniens ont pris en quelque sorte une interprétation littérale de ce passage, certainement, avec leur Rabitsou, leurs démons qui guettaient les personnes à l'entrée des maisons. À quoi ça nous sert-il aujourd'hui, le Rabbitsou? Pas à grand-chose. Si nous allons chercher, Dieu parle-nous dans une image, nous allons le voir que ce sera beaucoup plus riche. À l'opposé, si on dit que la chute d'Adam et Ève sont des images qui nous sont données, voilà, que le personnage d'Adam et Ève ne sont pas des personnages historiques, que cette histoire n'a rien d'historique, eh bien, là, ça ne va pas du tout m'instruire, je ne vais rien comprendre. Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Mais si je prends le texte de Genèse chapitre 3 au sens littéral, si je crois dans ce qui est dit, à ce moment-là, je vais comprendre la situation dans laquelle je vis. Je vais comprendre que je suis effectivement un fils d'Adam et Ève et que les problèmes que j'ai, je vais comprendre leur origine, les problèmes que j'ai dans ma vie, les difficultés que j'ai. On peut pouvoir situer l'origine. On avait vu ça, comme quoi on avait tous des habits, etc. Il y a des choses vraiment très concrètes qui s'expliquent quand on applique le sens littéral avec la question du jugement, etc. Et tout ce qui va autour, c'est là pour nous instruire. Si on le prend comme des images, on n'est pas instruit. Je termine ma parenthèse sur la question de l'image ou pas image. Est-ce qu'on prend un texte comme une image ou pas comme une image? Alors, comment on va comprendre ce texte? Je vais m'attarder surtout sur la phrase. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte, ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Alors on voit que Dieu a pris soin de prendre les mêmes mots et expressions que Caïn connaissait, puisque Caïn savait évidemment l'histoire de Adam et de Ève, c'était son papa, sa maman, certainement ils avaient dû raconter ça, et il utilise les mêmes expressions, les mêmes mots. Il utilise également un contexte, on a vu avec le péché se couche à ta porte, il sait ce que c'est que les animaux, il sait ce que c'est qu'un animal qui se couche à l'entrée, il pouvait certainement bien comprendre ces choses, et je pense que nous aussi on peut les comprendre. Alors ce péché qui se couche à la porte, dans le cadre qu'on n'agit pas bien. Si tu n'agis pas bien, ceci rentre dans le cadre, si tu n'agis pas bien. Alors on a ce péché qui se couche à la porte, qu'on voit quand on rentre, qu'on voit quand on sort, et qui devient de plus en plus familier, parce qu'on le croise, on le recroise, il est familier, et ce péché, il nous aime. Ses désirs se portent vers nous, il nous aime. On voit que vraiment ce péché-là, lui, il me veut du bien. Il aime ce péché qui est là. Hein? Et je rentre, et je sors, et je le vois tout le temps. Et ce péché, ben, il m'aime. Il veut me faire du bien parce qu'il m'aime. Dieu précise, ok, mais il ne doit pas rentrer à l'intérieur. Quelle est cette porte? Je pense qu'il s'agit là de la porte de notre cœur, pas de notre maison, la porte de notre cœur, ce péché qui est si intéressant, qui semble tant s'intéresser à nous, il ne doit pas rentrer à l'intérieur, il doit rester dehors et on doit le dominer pour qu'il reste dehors, parce qu'on est dans le contexte où on n'agit pas bien. Je vais prendre une image maintenant. Je ne sais pas si vous avez été chez les Hench, Jean-David et Sarah, ils ont une chatte qui s'appelle Minouchette. Et Minouchette, c'était une chatte abandonnée. Ils vous raconteraient l'histoire mieux que ça. Et puis vous savez, les chats, quand ils cherchent un maître, ils se mettent là, elle était là, toujours à l'entrée de la maison. Et son désir le plus cher, c'était de rentrer dedans, absolument. Trouver un foyer à ça. Et je sais que Sarah, elle ne voulait pas qu'elle rentre, elle ne voulait pas que ce chat viennent à la maison, parce que s'il rentrait dedans, après, ça y est, ce serait le chat de la maison. Il l'aurait adopté. Et maintenant, je crois que le chat, maintenant, il rentre. Alors, le chat, c'est mignon, hein. Le problème, c'est que un serpent, on le voit comme un chat. C'est quand on commence à ne plus discerner entre le chat et le serpent, quand on voit un serpent, et on pense que c'est un chat. On pense qu'il est mignon et qu'il peut rentrer dedans, parce qu'il est là, il nous regarde, il nous aime. Ève s'est fait, je prends l'image, l'animal de serpent, parce qu'Ève s'est fait attraper par un serpent. Et ça peut nous attraper aussi. Quand on est dans ce cadre où on n'agit pas bien, ben, on est en danger. On ne voit pas bien clairement les choses. J'ai une autre anecdote pour vous ce matin qui me touche. Vous savez, quelques-uns qui savent que je suis à la recherche d'un véhicule. Et hier, je me suis fait arnaquer. J'ai réfléchi à tout cela, bien sûr. On réfléchit dans ces cas-là. Et je me croyais, c'était une... Je cherchais un véhicule, je voulais un véhicule qui dure longtemps, qui soit pas cher, qui soit comme ceci, comme cela. Et il y avait une annonce sur Internet d'un véhicule qui correspondait vraiment à ce que je souhaitais, ce qui serait bien pour moi. Et j'avais parlé à Jean-David qui m'a dit, ah, c'est une arnaque, il ne faut pas y aller. Mais j'ai continué quand même, j'ai essayé, je pensais que j'étais fort, que j'arriverais à ne pas me laisser attraper à la fin, mais parce que peut-être c'était vrai. Et quand je repense à tout cela, je dis, mais quand même, comment tu as pu te laisser avoir de cette façon? Comment tu as pu te laisser séduire de cette façon? C'était vraiment trop gros, et à toutes les étapes, du début jusqu'à la fin, partout, on voyait que c'était quelque chose qui était faux. Hein? Autant de fois, vous regarderez un serpent, il sera toujours un serpent, et un chat sera toujours un chat. Comment j'ai pu voir le chat dans le serpent? Je ne saurais pas vous donner beaucoup d'explications, si ce n'est la convoitise que j'avais d'une voiture qui correspondait à ça et à ça et à ça. Ça m'avait pris la tête. Alors, on se croit fort, on croit 50 ans quand même, se faire attraper. J'ai quand même de l'expérience des choses, mais le problème est venu du côté où je ne l'attendais pas, bien sûr. Le problème est venu du côté où je ne l'attendais pas. Cela m'a beaucoup parlé et j'avais déjà préparé ce message avant. Alors, je me suis retrouvé dans mon message. C'est pour ça que je vous le dis ce matin. J'ai une belle illustration à vous proposer. Comment faire? On va regarder l'enseignement de Jésus maintenant. On va regarder ensemble l'enseignement de Jésus. Dans l'épître aux Romains, premièrement, cette question de si tu agis bien, si tu n'agis pas bien. Cette question d'agir, agir bien, utiliser notre corps pour faire de bonnes choses, des choses belles, et soi-même être bien. Romains chapitre 6, versets 12 et 13. Je vais le lire dans la version Nouvelle Bible Seconde, parce que ça correspond bien au niveau du vocabulaire avec les vocabulaires que j'ai utilisés jusqu'à présent. Mais vous pouvez le lire dans votre version. Je ne peux pas rentrer dans tout le contexte de Romains chapitre 6, ça nous amènerait beaucoup trop loin. Romains chapitre 6, verset 12. Que le péché ne règne donc pas dans vos corps mortels, n'obéissez pas à ses désirs. Ne mettez aucune partie de votre corps à la disposition du péché, comme une arme pour l'injustice. Mais mettez-vous vous-même au service de Dieu, comme des vivants revenus d'entre les morts. Mettez votre corps tout entier au service de Dieu comme une arme pour la justice. Donc ça rejoint ce qu'on disait la semaine dernière par rapport à l'offrande nous-mêmes, par rapport à ce que nous pouvons faire, offrir notre corps à Dieu, en offrande. Je ne vais pas revenir sur le message de la semaine dernière. Agir bien, utiliser notre corps pour faire de bonnes choses, le mettre en œuvre, le porter vers le bien, agir bien pour se mettre à l'abri de toutes ces choses-là, pour se mettre à l'abri de la séduction du péché qui est là et qui nous dit « moi, je vais te faire du bien, moi, je vais faire quelque chose pour toi, moi, je suis la réponse à ce dont tu as besoin ». Première épître de Pierre, chapitre 3, 2, verset 19, je vous le lis. « Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Alors, c'est pas bon de faire rentrer un serpent dans sa maison. C'est pas bon de faire rentrer le péché dans notre cœur. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui, dit l'apôtre Paul. Et si je me suis fait avoir par le péché, ça y est, il est dedans, il est dans mon cœur, je suis sous sa domination maintenant, c'est plus moi qui le domine, c'est lui qui me domine. Je l'ai laissé rentrer dedans. Et ça peut arriver à chacun d'entre nous. Personne ne peut dire je suis à l'abri, ça ne m'arrivera jamais. En vérité, nous dit Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Jésus-Christ est là pour nous libérer de ce problème. C'est lui le seul qui peut le faire. Jésus-Christ est là pour nous libérer, pour nous débarrasser de ce problème. Il est souverain sacrificateur, il est rentré avec l'offrande de son corps dans les lieux célestes, nous dit l'épître aux Hébreux, avec son propre sang. Il a fait expiation des péchés. Il était homme, il était Dieu, ayant connu notre condition d'homme, ayant été tenté comme nous en toutes choses, sans avoir jamais péché, il peut comprendre ce qu'est la tentation, il peut comprendre les problèmes dans lesquels on se trouve. On va lire maintenant Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16. Est-ce que Alain, tu peux nous lire Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16?
La nation du semeur. Nous lisons en Hébreux, chapitre 4. Verset 14. Ainsi, puisque nous avons en Jésus le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui, après avoir traversé les cieux, et auprès de Dieu, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. Verset 15.
Jusqu'à 16.
Jusqu'à 16. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Verset 16.
Oh oui.
Verset 16. Approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment.
Voilà, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. En Jésus-Christ, Dieu nous fera toujours bon accueil. C'est là où on va trouver le pardon, c'est là où on va trouver la consolation. Et même si nous devrons porter les conséquences de notre folie, ça, c'est un petit peu obligé. On l'avait vu, on en a parlé à Genèse chapitre 3, comment Adam et Ève, ils avaient dû assumer les conséquences. On avait vu ça. Vous pouvez relire le chapitre. Mais trouver le pardon de Dieu. Trouver le pardon de Dieu, avoir l'assurance qu'on peut aller vers lui et on peut lui demander pardon. En Jésus-Christ, Dieu nous recevra, le trône de la grâce, l'endroit où on nous fait grâce, condamné, il qui est gracié, ça y est, il est libéré de sa peine. Alors, je vous propose maintenant de prier. Ce texte nous encourage à saisir ces choses. Quand nous sommes dans le péché, quand le péché est entré, il faut vraiment se sortir de cette situation. On a lu le verset 8 qui a suivi ce texte avec Caïn. Caïn adressa la parole de son frère à son frère Abel, mais comme ils étaient tous deux dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. On verra ça la semaine prochaine ou la prochaine fois que je reprendrai la parole. Faut pas faire comme Caïn. Faut pas faire comme Caïn. Faut faire comme Abel. Et si on a fait un faux pas, si on est dans la situation où on n'agit pas bien, la domination du péché, il faut résister, il faut lutter. Et si on échoue, venir à Jésus. Faut pas attendre. Faut pas attendre. Alors on va prier. Notre Père Céleste, merci pour ta parole qui est vivante. Qui est vivante. Elle fait ce travail dans notre cœur. Aide-nous à la comprendre. Aide-nous à l'appliquer dans nos vies. Aide-nous à ce qu'elle nous transforme. Est-ce qu'elle nous rende pour que nous ressemblions à Jésus. Seigneur, merci de nous garder. Tu es notre bon berger. Tu veilles sur nous, nous le savons. Tu nous garderas jusqu'à la fin. Garde-nous, Seigneur, de nous mettre dans des problèmes, dans des difficultés dont nous n'avons vraiment pas besoin à cause du péché. Et de faire du tort autour de nous, Seigneur. Et de t'attrister. Merci pour le pardon que nous recevons à la croix. Merci, Seigneur, pour ce que tu as dit ce matin. Dans le nom de Jésus, garde-nous, bénis-nous. Amen.